Voilà, donc bonjour à vous tous et à vous toutes. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans la perspective de notre congrès 2023 à La Baule les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin sur le thème S'accorder, co-créer, transmettre le lien humain au cœur de la thérapie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Bardot, je suis psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute. J'ai créé l'Institut Mémétis en 2009 pour développer les thérapies autour de l'hypnose, des thérapies brèves et plus particulièrement de la thérapie du lien et des mondes relationnels, anciennement HTSMA. Et c'est grâce à cet institut que le webinaire et le congrès ont lieu. J'ai le plaisir aussi de vous informer de la sortie de notre livre collectif Illustration clinique et pratique en thérapie du lien et des mondes relationnels chez SATAS, et dans lequel ont écrit 15 formateurs et formateurs en formation de l'Institut. Alors, pour ce nouveau webinaire, qui va avoir pour thème du patient au thérapeute, du thérapeute au patient, quand deux mondes relationnels se rencontrent, nous avons le plaisir, pour traiter ce sujet pendant 1 heure, d'avoir nos deux intervenants qui interviendront aussi au congrès, à La Baule. Donc Vera Licage, psychologue, psychothérapeute, formatrice en thérapie brève, hypnose, mouvement alternatif à l'espace du possible à Tournai, et également intervenante au DU d'hypnose à Lille. Et Stéphane Roy, psychologue, docteur en psychologie, psychothérapeute à Bourges, et qui est également co-gérant de l'Institut Mémétis et formateur en hypnose et en TDMR. Voilà, donc je vais vous donner la parole. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et il y aura encore une demi-heure après pour pouvoir partager ensemble les réponses à vos questions. Stéphane, je te passe la parole.
Oui, merci Eric de me laisser la parole, de me passer la parole. Je vais commencer par déjà remercier Vera d'avoir accepté de participer de co-animer ce webinaire ce soir. Nous avions déjà eu l'occasion l'année dernière d'en faire un ensemble et ce n'était pas par hasard, c'est aussi suite à cette expérience et puis aussi à la rencontre qu'on a pu faire à l'occasion de notre précédent congrès. Voilà, on a décidé il y a maintenant quelques mois de ça de renouveler l'expérience
Oui.
ensemble et de nouveau pouvoir échanger aujourd'hui sur des sujets qui nous sont chers et nous pensons que ce sujet de la rencontre, de la relation thérapeutique, enfin bon, on pourra revenir sur toutes ces choses-là à travers des exemples de nos expériences. Peuvent intéresser un bon nombre de praticiens. C'est un peu l'objet du webinaire de ce soir. Alors, juste, et puis après on va échanger, je te laisserai la parole, hein, bien sûr, Vera, juste pour introduire un petit peu le sujet. Disons que il y a pas combien, il y a quelques temps de ça. Je suis retombé un petit peu, comment dire, un peu par hasard sur Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, et puis que j'avais lu il y a très longtemps, et j'avais fait des liens. Enfin, j'avais fait des liens, et suis pas le seul à l'avoir fait, bien évidemment. D'autres thérapeutes ont fait des liens en leur temps. Par rapport à une anecdote, en fait, un passage dans Alice au pays des merveilles et la pratique de la thérapie, à savoir dans ce passage dans Alice au pays des merveilles, en fait, le dodo, hein, l'oiseau dodo qui n'existe plus, qui a malheureusement disparu. En fait, dans cette histoire, il organise une course après que tous les personnages se soit baigné, il organise une course et il leur propose à tous les animaux de courir autour du lac et bien sûr pour voir lequel parviendra le mieux à se, le plus rapidement à se sécher. Et finalement, bilan de l'opération, quand on lui demande alors qui a gagné, et le dodo répond vous avez tous gagné et vous méritez tous un prix. Et à partir de cette histoire, en fait, ça m'a rappelé, on s'en fout, ça m'a rappelé l'importance finalement de ce qui fait l'essence de notre pratique et de ce qui fait l'essence de du travail en thérapie. Je ne suis pas, évidemment, nous partageons ça. Ça a été décrit en son temps, hein, déjà de très très longue date. Hein. Je n'invente rien aujourd'hui en disant ça. Je fais que peut-être de réactualiser ou réactiver ce que l'on sait, ce que l'on a appris et ce que l'on constate encore au quotidien à travers la relation et la pratique qu'on peut avoir auprès de nos patients, à savoir que finalement, ce qui fait, j'ai envie de dire, peut-être l'efficience, la réussite de nos thérapies, c'est ce qui relève de la rencontre et ce qui relève de la relation. Alors, les spécialistes parlent de facteurs communs en thérapie. Et parmi ces facteurs communs, évidemment, ce qui relève de la relation, de l'alliance thérapeutique, alors c'est pas tout à fait la même chose, peut-être faudrait le redéfinir pour être un peu plus précis. Et donc, cette fameuse question, la relation, et dans cette relation, évidemment, au minimum, on est deux, et ce qui est mis en avant, un facteur qui est important, c'est, on va dire, la qualité relationnelle du thérapeute. Et c'est un peu sur ce sujet-là ou ces sujets-là, et ça va nous emmener sur d'autres choses, bien évidemment, sur lesquelles il s'agit, voilà, qu'on puisse aujourd'hui échanger. Je vais te laisser la parole, Vera. Quand on a préparé la fois dernière ce webinaire, tu m'as dit, tiens, ça m'a rappelé en fait diverses situations, des choses que tu avais connues, que tu avais lues. Me souviens, et tu m'avais dit, on avait repéré comme ça chez les thérapeutes ce qui va donner la qualité aussi de la relation en fonction de ce que le thérapeute peut attendre, de la manière dont il se représente lui-même son travail de thérapeute. Je ne sais pas si c'est encore frais à ta mémoire, ces choses-là, ou peut-être que on pourrait démarrer un peu avec ça. Et puis,
bien sûr. Et mais d'abord, merci à Eric, merci à toi pour cette invitation. C'est avec plaisir qu'on renouvelle l'expérience. Oui, quand je t'écoutais par rapport à qui a gagné, finalement, c'est comment favoriser et faire émerger la coopération en thérapie. Et effectivement, si ça c'est la théorie et qu'elle est idéale, j'imagine, en tout cas je l'espère pour la plupart d'entre nous aujourd'hui ce soir, c'est-à-dire qu'en pratique, c'est pas aussi facile que ça. Et je vais vous partager une expérience toute fraîche, c'est-à-dire il y a une heure d'ici dans mon bureau. J'ai une patiente qui s'assied en face de moi, on se connaît déjà bien, on avance sur le chemin dans la traversée de ces différentes expériences traumatiques. Et elle me dit, il faut quand même que je vous dise, la fois dernière, j'étais vraiment pas bien pendant notre séance. Je me suis dit, ah non. Donc, elle ne me donne pas de détails, elle me dit juste ça. Je me suis sentie pas bien du tout, je me suis sentie j'ai mal dans mon corps, la nausée. Et la seule chose qui me venait, c'est de dire pas elle aussi. Et c'est quelques instants de désaccordage comme ça où elle me dit... Qu'elle n'est pas OK dans la relation, que j'ai fait quelque chose. Et alors, je lui dis, tiens, à quel moment, ou dis quelque chose. Et pour que ce soit encore moins facile, si je peux dire ça comme ça, elle ne se souvient pas bien, elle ne sait pas exactement à quel moment, quel propos ou quelle attitude chez moi a déclenché ce sentiment de malaise et je sens dans tout mon corps cette sidération qui me prend moi et puis ce vieux monde relationnel qui est sans doute le mien, sans doute sans aucun doute d'ailleurs le mien, c'est je déçois. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à quel, et je me vois lui poser des questions sur ce à quel il faut que je sache. Dites-moi, je peux pas vous aider si vous me dites pas. Et puis et elle de me dire j'arrive pas à vous dire. J'ai l'impression de devoir me justifier. Enfin, il y a eu comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Quelques minutes, je pense, de complet désaccordage où quelque part j'étais emportée dans une attente. Pour moi, il faut que ça s'arrête, il faut que j'arrête de souffrir pour que ça, pour redevenir disponible. Alors que, tout à coup, je me suis rappelée pour remobiliser un peu mes ressources que on parlait sans doute ni de moi ni d'elle, mais de quelque chose d'autre, de quelque chose qui se répète encore et encore. Et finalement, en lui proposant, on connaît cette technique, vous et moi, cette d'externalisation sur la main, finalement, quelle forme cette séance précédente prend-elle? Et elle me dit, comme une porte qui se ferme, comme quelque chose qui va m'enfermer. Et à partir de là, on a pu se remettre en lien tous les deux avec cet événement, sans que je ne sois sidérée par mes attentes. Il faut que je sois... là, elle me dit qu'elle est déçue. J'avais vraiment le sentiment qu'elle me faisait part de sa peur d'être enfermée, puisque c'est ça qu'elle a dit, sa peur d'être maltraitée. Et moi, tout de suite, en face, ma peur de ne pas être aimée. Et ces deux trucs-là qui se sont rencontrés, qui ont provoqué quelques minutes de dissociation, de sidération chez elle comme chez moi et de non-rencontre. Et que ça aurait pu mal tourner cette histoire, c'est-à-dire de créer une boucle relationnelle dans la boucle, hein, une boucle relationnelle dans son monde à elle et dans le mien, en rivalité. Justifie-toi. Ma chérie, mais moi j'ai rien fait, mais si vous me dites pas, il y avait une rivalité qui s'est installée comme ça pendant que la dissociation, en tout cas que ma sidération a permis, c'est quelques instants de rivalité, alors que tout à coup, ok, c'est la coopération qui. Comment est-ce qu'on va pouvoir coopérer et regarder ensemble ce qui s'est passé sans que nos deux mondes viennent sidérer l'autre ou...
Ouais.
Absolument.
Oui. Tout à fait. Et alors, ton expérience fait penser à deux choses. Alors, une petite anecdote. Vous savez, tu sais, Vera, on a tous des expériences qui nous ont marqué et qui nous servent et qui nous font progresser en tant que thérapeute et qu'on partage volontiers aussi. À qui veut l'entendre auprès de nos stagiaires en formation, à la fois en espérant que ça puisse servir de modèle, en tout cas d'exemple. J'aime raconter cette histoire. Ça date un petit peu, ça fait quelques années. Bien sûr, j'étais pas le thérapeute que je suis aujourd'hui, et encore moins celui qui sera bien encore dans quelques années. Mais j'avais beaucoup travaillé avec un patient, monsieur, pour présenter une dépression qui était assez sévère. Et ça a été des mois et des mois de travail. Et j'étais avec ce monsieur, je sens bien que j'étais en mission. je dirais pas autre chose et je redirai ce mot tout à l'heure volontairement. Mais j'étais en mission et je vois bien que à quel point ça a activé chez moi le besoin irrépressible de pouvoir d'aller le sauver, et qui répondait à on va dire à mon paysage mental monde relationnel, comme on a l'habitude de l'utiliser, et notamment qui s'activait dans le rapport à cette situation. Et évidemment, derrière ce besoin de l'aider, on dit forte de l'aider, se cachait en fait quelque chose de pas très honnête chez moi, c'est-à-dire arriver à la réussite, c'est-à-dire que je puisse l'entendre me dire un jour je vais mieux et pour être tout à fait transparent, qu'il aille mieux et qu'il puisse me dire c'est quand même certainement sûrement grâce à, c'est aussi surtout grâce à vous en fait, hein, que je vais mieux et je m'étais tellement donné. Et je me souviens, on était près de la fin de notre travail et ce monsieur, je le vois en séance et j'attendais presque quelque chose de ce type-là. Il me disait, et je lui dis volontairement, alors hein, on le sait, hein, bah, s'il y a des réponses qu'on ne peut pas entendre, on n'a qu'à pas poser des questions. Et je lui pose la question, de dire, mais dites-moi, dans le fond, qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Et il me dit, évidemment, aujourd'hui, je serais capable d'avoir une réflexion et une analyse par rapport à cette situation, c'est différent, mais, et il me dit sur le moment, et il me dit, je crois vraiment ce qui m'a aidé en me regardant dans les yeux, c'est le jour où j'ai déménagé de chez moi. Ça vraiment, ça a fait la différence. Et alors, évidemment, chez moi, c'est rempli un grand moment de solitude, que j'ai compris dans quelle attitude je pouvais être. Et c'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure, enfin sans être vouloir être trop long sur cette anecdote, mais qui a été marquante pour moi, en tout cas, j'utilisais tout à l'heure le terme de missionnaire parce que ça me fait penser à des références. C'est le terme qui était utilisé, enfin c'est des choses que j'ai appris il y a longtemps, quand on parle des attitudes chez les thérapeutes, hein. Là, enfin, sans vouloir les enfermer, parce qu'en fait ça, on traverse en fait, des postures, des attitudes, on parle de l'attitude missionnaire justement parfois chez le thérapeute. C'est pour ça que j'ai utilisé volontairement ce terme, c'est-à-dire on cherche à convaincre par exemple le patient du bien fondé, de la véracité de nos interventions, et on voit à quel point on peut se justifier, s'expliquer, convaincre, en fait, dans une habitude de chercher à convaincre. Et puis, mais à côté de ça, je vois pas à travers quoi on peut aussi naviguer une position plus, ce qu'on pourrait appeler comment ça, plus altruiste, mais en fait, qui est, vous voyez, je peux dire que j'oscille un petit peu entre les deux, c'est-à-dire la volonté à tout prendre de vouloir le sauver, donc cette position altruiste aller à l'excès, et puis cette position du missionnaire qui cherchait à le convaincre de bien fonder de mes interventions et de c'est comme ça qu'il fallait travailler et pas autrement, et évidemment manquait dans cette interaction avec ce patient ce côté de, tu l'as dit, c'est pour ça que ça m'a fait tilt avec la question de la construction et la co-construction, c'est-à-dire de créer un nous qui inclut à la fois le un jeu et puis un tu, mais qui va bien évidemment au-delà en fait, hein, et si on devait lister comme ça, et puis je laisser le commenter, mais si on devait lister comme ça, il est clair que la posture, c'est-à-dire le thérapeute, voilà, qui chez qui s'active chez lui, en particulier dans sa relation à l'autre dans le cadre thérapeutique, la dimension, comment on peut dire ça, égotique de son ego, qui ne lui permet pas véritablement de rencontrer l'autre, hein, c'est une dimension importante, le sentiment d'échec, la légitimité, ce sont des questions qu'on est amené à se poser. La question de l'ego, je dirais pas que c'est pas ego ou pas ego, hein, ça a pas de sens, hein, c'est il doit être à sa bonne place.
En fait. Bien sûr.
C'est toute la difficulté, et je pense que ces questions-là sont fondamentales parce que elles viennent s'activer chez le thérapeute à des degrés différents, bien évidemment, hein, ça peut s'activer à des degrés différents, c'est-à-dire le souci de la réussite, le souci de passer pour quelqu'un, d'être un bon thérapeute, d'être un bon thérapeute, mais aussi avoir la volonté de à travers le regard du patient, d'être une bonne personne, en plus du thérapeute, c'est-à-dire la question de la légitimité, ces choses-là viennent participer et peuvent venir faire obstacle justement à la rencontre.
À la rencontre, c'est, et dans l'expérience que j'ai vécue il y a 2 heures de ça, c'est finalement ce moment très rivalitaire et je pense que il faut se donner des objectifs humains et réalistes, c'est que ça nous arrive encore et ça nous arrive tout le temps et ça ne peut pas ne pas nous arriver, mais que quand ça nous arrive, de pouvoir très vite repérer ce moment de désaccordage où j'étais en train, je m'entends lui dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Je fasse de ça. Et elle me répondait en miroir, moi je ne sais pas, mais ce qui compte, c'est quand même ce que j'ai vécu. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu un bras de fer, quelque chose que j'ai, c'est ce réflexe clinique de me rapprocher, de dire finalement ce qui nous est arrivé la séance dernière, ça ressemble à quoi ? Et de pouvoir le décrire comme ça. Parce que ce que tu nous dis, Stéphane, finalement, les facteurs communs, trouver des facteurs communs en thérapie, c'est possible, finalement on appellerait ça la bienveillance aussi, mais la bienveillance quand on souffre, c'est compliqué. Enfin, et que le thérapeute qui est malmené aussi par la relation, sans compter ce qui fera écho aux résonances avec ses propres histoires relationnelles, tu les as citées, hein, mais c'est vrai que les rencontres avec les soignants sur tiens, aider pour quoi faire, oui. Guérir pour. Ben oui, les enjeux de la relation d'aide, finalement, les réponses des soignants se rassemblent en 4 grandes catégories. C'est je t'aide pour que tu. Dis-moi que j'existe. Oui. Dis-moi que donc je suis légitime, que j'ai une place. Une autre catégorie de réponse vient de dire, dis-moi que je suis, tu l'as dit, une belle personne, que je suis aimable et capable d'amour.
Oui.
Une autre catégorie de réponse amène la question de, dis-moi que je suis utile, que je sers à quelque chose. Et si on va un peu plus loin, la dernière catégorie, en tout cas dont je me souviens dans mes lectures, c'est mes rencontres avec les soignants, c'est dis-moi que je suis compétent. Et donc, on a tous l'un ou l'autre de ces registres qui est activé, qui nous a sans doute, et on ne va pas refaire les histoires de vie, mais qui nous a amenés dans la relation d'aide. Et quand le patient, par ses propres habitudes relationnelles, par ses comportements qui sont répétés et dissociés, vient bousculer ça chez nous, hein, tant qu'il nous dit qu'on est légitime, qu'on est quelqu'un de formidable et que grâce à nous, il avance bien et qu'on n'a rien merdé sur le chemin, on ne souffre pas. Et c'est pas narcissique, tu parlais d'ego, mais c'est plus de ça dont il faut parler, c'est pas narcissique, c'est de se dire on ne souffre pas, et comme on ne souffre pas, on est capable de mobiliser toutes nos ressources cliniques, thérapeutiques, nos outils de pensée qui seraient peut-être bien d'externaliser, de recourir à telle ou telle carte de questionnement narratif, ou tiens, et si je faisais un peu de thérapie orientée solution, tiens, là, ce serait bien de faire, je pourrais faire une métaphore. Enfin, on peut alors mobiliser très naturellement, sans même y penser, parce qu'on ne souffre pas, on mobilise nos ressources cliniques et humaines. Mais dès que Claude vient nous dire, mais en fait, non, tu ne sers à rien, ou vous avez pas, je pense à un patient qui entre dans mon bureau, c'était le premier rendez-vous, il dit, alors je vous le dis tout de suite, les psys, moi, j'y crois pas. Hein, j'aime pas les psys.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ? On se bat tout de suite, ou j'essaye de le convaincre du bien fondé de ma profession, ou j'entends sa méfiance, qui a sans doute de bonnes raisons d'être là depuis de ses expériences relationnelles. Et, et on en fait quelque chose. Nous, tous les deux, on regarde cette méfiance ensemble sans vouloir, tu disais, convaincre.
Oui.
Mais effectivement, il y a ce petit moment, petit ou grand moment, ça peut, hein, là tout à l'heure, je suis ravie d'avoir pu sortir de cette sidération après quelques minutes seulement, mais parfois ça prend plus longtemps. Et alors, ce sont ces patients dont on parle en supervision en disant ça coince, ça bloque. Souvent d'ailleurs, c'est le patient qui est responsable. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. C'est lui qui résiste, c'est lui qui est ambivalent, c'est lui qui, dans les réunions d'équipe.
Alors, c'est. Donc, juste, je rebondis tout de suite parce que nous, on a l'habitude de dire, alors, il ne faut pas que ce soit quelque chose comme une carte qu'on sort à chaque fois, mais c'est pour le partager là tout de suite. Hein, on a l'habitude de dire justement sur cette question de. Qui est souvent évoqué hein, dans la thérapie, parler de le patient qui est résistant, on a l'habitude de dire que justement en fait s'il résiste en fait c'est une compétence relationnelle, il résiste à quel type de pouvoir en fait et évidemment quel type de pouvoir, ça peut être le pouvoir que le thérapeute même lui-même sans s'en rendre compte exerce sur son patient.
Mais quand on souffre, on va vouloir que ça s'arrête. C'est très humain. Je souffre dans la relation, je viens d'être malmenée par une remarque, par une attitude, par un comportement, et je veux que ça s'arrête. Alors du coup, j'attends quelque chose pour moi, hein, donc j'attends d'être utile, compétent, aimé, légitime. Et donc, je veux que l'autre arrête de ou commence à, et j'irai mieux quand il ira mieux. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que je suis en position haute, sans le vouloir, évidemment, en tout cas on l'espère, mais je crois savoir ce qu'il faut qu'il fasse, je veux qu'il, et on est plus du tout dans cette coopération, et là, la porte ouverte à l'interprétativité de s'il arrive en retard, c'est pour m'ennuyer, c'est parce qu'il sabote le cadre on va être dans des interprétations rivalitaires, c'est la souffrance, comme on peut l'observer par exemple dans une thérapie de couple. Quand l'un et l'autre souffrent, ça devient difficile avec bienveillance de dire non, il a de bonnes raisons de, lui aussi, elle aussi a de bonnes raisons de. Et parce que chacun tire l'événement comme de son côté, alors que la porte de sortie, en tout cas celle que j'utilise, j'imagine comme toi assez souvent, c'est qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oui. Exact. Alors, je vais faire le lien, justement, c'est important, c'est pas qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce qui nous arrive, ou alors c'est les trois en même temps, mais à des moments différents, parce que on a une capacité à pouvoir porter notre attention dans une direction ou dans une autre, qui est somme toute limitée. Peut-être à deux endroits en même temps. Nous, on a l'habitude souvent de parler de cette position chez le thérapeute, de cette position à la fois centrée et décentrée en même temps, et qui est un véritable travail, un véritable apprentissage. À mon goût aujourd'hui, hein. Ça n'engage que moi hein, de dire ça, mais à mon goût est véritablement le seul moyen, la seule possibilité véritablement pour pouvoir laisser la possibilité à un espace qui est au-delà du patient et du thérapeute, à pouvoir laisser un espace justement où vont émerger des choses, un espace de créativité, on peut l'appeler notamment un espace de travail, un espace partagé, un espace imaginaire où des choses vont émerger. C'est dans cette position, en fait. Hein. D'autres ont parlé en leur temps, tu sais, cette fameuse, cette compétence-là, c'est-à-dire qu'on a là de réflexivité, c'est-à-dire de pouvoir observer chez le patient, par exemple, ce qui se passe chez lui lors de mes interventions, et puis d'observer aussi en même temps, de pouvoir observer ce qui se passe chez moi, par exemple, hein, d'être dans une double attention, ou de basculer de cet espace, ce fameux espace de travail dans lequel on peut regarder ensemble et d'observer comment ça réagit chez moi en tant que thérapeute. On dirait aujourd'hui que puisqu'on faisait, tu évoquais, tu commençais à évoquer la question du monde relationnel et qui est le titre de notre intervention, on placera volontiers aujourd'hui le corps en relation, organisme vivant, qui va être à l'interface justement, hein, qui va être à l'interface de cette capacité réflexive, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs plutôt parler de puisque le pensée réflexive, c'est souvent un terme qui est utilisé, hein, en fait, d'une conscience corporelle. Alors, je ne sais pas si on peut parler de corps réflexif ou de, je ne sais pas comment on peut l'appeler, peu importe sur les mots, mais qui nous permet justement dans cette attitude-là, justement de laisser cet espace ouvert et de basculer à ce moment-là vers un. C'était la première chose sur laquelle je voulais revenir. Et puis, un autre élément aussi pour cheminer dans notre réflexion qui me vient, c'est malgré tous les obstacles qu'on peut rencontrer, et à commencer par chez le thérapeute, et on en a parlé depuis tout à l'heure, là, depuis le début de nos échanges, et pourtant, ce qui est attendu au départ, et c'est pas incompatible hein, d'ailleurs hein, ce que je vais dire, mais et d'ailleurs pourtant ce qui est attendu, je le demandais encore il y a pas très longtemps avec un monsieur avec qui j'ai commencé à travailler, et puis des fois on a des réflexes comme ça, enfin des choses pourtant qui sont importantes, mais on le demande pas systématiquement, et je dis mais qu'est-ce qui est essentiel pour vous là quand vous venez me voir là par rapport à vos attentes. Alors, je lui parle d'attente et puis on va sur les attentes relationnelles. Je ne parle pas d'attente en termes d'objectifs de travail ou de résolution de quelque chose ou de, je ne sais pas, moi, de réduire ou d'effacer un symptôme ou je ne sais quoi, en fait, hein, par rapport à parfois les demandes initiales qu'on peut avoir. Je lui demande, mais en termes d'attente, voilà, entre vous et moi, là, imaginez, enfin, vous auriez besoin que ça se passe comment. Il me dit, bah, ce que j'attends, c'est que ce soit une relation, voilà, de, on se sente à l'aise, en confiance. Je sais pas, quand je viens vous voir, que je me dise, que je, dans ma tête, quand je viens vous voir, je me dis, c'est rassurant, c'est sécurisant, en fait, quand je viens vous voir ce temps-là qu'on a ensemble, c'est ça. Et en fait, ce monsieur, finalement, sans le savoir, il se fait l'écho de souvent ce qui est attendu, c'est-à-dire un espace sécur, en fait. On pourrait l'appeler comme ça, parce que ça va parler à beaucoup d'entre nous. Cet espace sécur où il y a un enveloppement, enfin, on va créer des conditions pour que l'enveloppement dans cet espace puisse laisser place à l'émergence d'une lien et puis d'une relation où deux mondes. Ou deux mondes relationnels, somme toute, même si ils sont dans des perspectives, des visions du monde qui peuvent être différents, peuvent cohabiter à la fois dans leur singularité et puis dans leur spécificité. C'est ça en fait qui est intéressant. Je sais pas trop, j'ai pas été chercher trop l'étymologie. Des fois, tu sais, on parle de conversation parfois. En thérapie, c'est-à-dire que à un moment j'utilisais ce terme de conversation thérapeutique, et puis je me demande si le terme de dialogue est finalement est pas encore plus adapté, parce que je relisais l'autre fois dialogue, en fait c'est vraiment le partage, ça peut être des points de vue qui sont différents mais dans l'intention partagée, je crois que c'est important dans la rencontre de deux espaces, dans l'intention partagée que des différences va émerger justement un terrain, un espace sur lequel on va pouvoir, à partir duquel on va pouvoir travailler ensemble. Donc quand je dis ça, c'est important pour moi, c'est important aujourd'hui si on me posait la question, et des fois en supervision des choses qui peuvent être abordées, dire au thérapeute gardez vos spécificités. Gardez votre manière d'être, n'essayez pas de singer ou d'être quelqu'un d'autre que vous ne serez jamais, ou alors vous pouvez passer beaucoup de temps, vous allez passer beaucoup d'années de votre vie à chercher à être un autre thérapeute que vous n'êtes pas, hein, et notamment, encore une petite chose pour terminer momentanément, je fais le lien avec garder et être ce que vous êtes et développer ça chez vous, et notamment sans le vouloir aller trop loin, puisque c'était l'objet de notre webinaire qu'on avait partagé ensemble, c'était la question de pouvoir être à l'écoute de ses propres vulnérabilités, puisque c'est de ça dont ça parlait. Hein,
oui.
Et je sais bien que dire ça, c'est toujours facile de le dire, de le mettre en application. C'est peut-être l'histoire d'une vie chez un thérapeute pour se sentir à l'aise suffisamment avec ça.
Effectivement, je crois que les patients viennent toujours nous chercher, enfin pas que les patients d'ailleurs, toutes nos relations viennent nous chercher dans nos vulnérabilités. Et tu as prononcé un mot important, je pense, c'est le mot intention. C'est
oui.
Effectivement l'intentionnalité. Je pense à une jeune patiente qui arrive chez moi il y a quelques mois et qui ne parle pas. Elle dira d'ailleurs d'elle, je me ferme comme une huître, donc c'est très parlant, en effet. Et donc, elle ne parle pas. Elle a de bonnes raisons, hein. Elle ne parle pas, mais elle dit deux, trois trucs quand même. Et elle dit, quand j'étais ado, elle a vécu un abus intrafamilial. Et puis, j'ai été en thérapie. Je me suis attachée à cette thérapeute qui, quand je lui ai fait part des sentiments que j'avais pour elle, m'a dit, alors, on va devoir s'arrêter. Et l'expérience toute récente qu'elle a avec un autre thérapeute, alors on sait que entre le vécu et le comment ça s'est vraiment passé, il peut encore avoir des écarts, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Une autre expérience toute récente, c'est qu'elle est allée voir un thérapeute avec qui elle ne parlait pas de peur de s'attacher, me dit-elle. Et comme elle ne parlait pas, le thérapeute, au bout d'un an, a dit « Écoutez, comme vous ne parlez pas… on va s'arrêter là, moi je ne peux rien faire pour vous. Revenez me voir quand vous aurez envie ou besoin de parler, comme si c'était aussi facile que ça. » Et donc effectivement, quand elle est là devant moi, mutique, fermée, avec son sac sur les genoux, sa veste encore remontée jusqu'au col, quelle interprétation, quelle intention je vais lui donner ? Si je suis dans la souffrance, dans les attentes dont on a parlé tout à l'heure, dans mes propres dissociations, je pourrais bien dire elle ne fait pas confiance, elle et prendre tout ça bien trop personnellement que comme des informations déjà là pour coopérer. Elle me dit ce dont elle a besoin, elle me dit ce qui lui fait peur. Elle me donne plein d'informations cruciales pour construire et co-construire cet espace commun. Est-ce que je vais aller la rejoindre dans son monde à elle ? C'est-à-dire, elle ne parle pas, elle a ses bonnes raisons, et comment je vais, ce sera le sujet de mon intervention à la boule, mais comment je vais apprivoiser ce monde-là, son monde à elle, pour... J'ai toujours été frappée par une certaine posture du monde des soignants, plutôt institutionnellement parlant, hein, pas individuellement, mais avec combien de fois j'ai entendu dans ma carrière qu'ils viennent nous voir ou qu'ils reviennent nous voir quand il sera prêt. Et alors j'imagine toujours le patient sur une montagne. Enfin, d'ailleurs, c'est une métaphore qu'un patient m'avait donnée. Il est sur une montagne sombre et pleine, vraiment. Pas très, on n'a pas très envie d'y rester. Et puis, il y a un pont de singe qui relie avec un vide sidéral en dessous du pont de singe. Il y a ce pont de singe qui relie vers une autre montagne, beaucoup plus éclairée, lumineuse, avec, on voit bien, même de loin, qu'il y a des jolis paysages dessus. Mais il faut entamer ce voyage. Il faut, et ce voyage au-dessus du vide, quoi, et tout seul. Et parfois, je métaphorise la position des systèmes de soins en mode, on les attend sur cette montagne de l'autre côté en disant, allez, viens, allez, on est là, il faut, viens. Et puis, le patient de l'autre côté, je peux pas, j'y arrive pas, je m'en sens pas capable, j'ai vécu tellement de choses que c'est compliqué pour moi. Et puis, à un moment, revenez nous voir quand vous serez prêt, nous, on ne bouge pas, hein, nous, on reste là. Et je pense qu'effectivement, comment on peut aller rejoindre l'autre dans ce vécu, ben, avec bienveillance, c'est-à-dire sans souffrance. Et c'est là que nos propres histoires relationnelles, comment je vais interpréter son silence, comment je vais interpréter cette fermeture aussi. Peut-être j'ai rencontré ça dans ma vie. Je parle même pas de peut-être, si je parle de mon expérience clinique avec cette patiente. Oui, j'ai rencontré ce silence qui dans des expériences relationnelles douloureuses, était un silence méprisant, un silence punitif, qui venait me dire, et si je rejoins l'expérience de tout à l'heure, qui venait me dire ouais. Tu m'as encore déçu. Et donc, si je revis ça, je souffre et je veux qu'elle parle. Dis-moi que c'est pas ça. Et c'est ce moment où je pourrais lui transmettre que si elle ne bouge pas, moi, je ne bouge pas non plus parce que je reste sidérée de mon côté et elle reste sidérée du sien. La rencontre n'a pas lieu parce que l'intentionnalité n'est pas perçue. L'intentionnalité, du coup, elle interprétera peut-être mes propos, mes attitudes, de l'ordre de la maltraitance ou de l'abandon tel que ça résonne pour elle. Et moi, je vais interpréter les siennes aussi du côté de cet abandon, de cette maltraitance, alors que l'intention n'est pas là.
Absolument, je peux pas m'empêcher, Vera, tu vois, en t'écoutant, évidemment, ce qui vient comme une évidence là maintenant, c'est à travers l'exemple que tu donnes, difficile de parler de rencontres dans un cadre de rencontre thérapeutique en l'occurrence pour nous là, parler de rencontres, de liens, de relations sans faire un détour par le sans faire un détour par le l'attachement et la qualité de l'attachement et justement est-ce qui fait obstacle à l'attachement. Alors, tout le monde, enfin, de mon point de vue, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une forme d'attachement va se mettre en place. Après, elle sera concurrente, après, elle sera sécure pour les deux ou pas, si on reprend les termes. Peut-être pour l'un ou pour l'autre, peut-être que la relation sera dans la symétrie, peut-être qu'elle sera complémentaire, mais un attachement, une forme d'attachement va se mettre en place. Et je pense que c'est important parce que c'est la manière dont on pourrait définir, en fait, hein, finalement, quand on parle à tout début, tu sais, on parlait d'alliance thérapeutique, difficile de faire l'impasse de parler d'alliance thérapeutique si il n'y a pas l'installation qui peut prendre d'ailleurs beaucoup de temps hein, au passage mais d'un lien sécure à l'autre et c'est là où va s'inviter aussi justement parfois la confrontation ou difficile cohabitation dans un espace commun de deux mondes relationnels et en l'occurrence si on s'intéresse un instant en particulier aussi y compris monde relationnel du thérapeute en fonction de sa capacité, je veux dire, ses compétences, je sais pas comment on peut le dire, à s'attacher et à s'attacher parce que c'est s'attacher et c'est l'autre aussi s'attacher à soi. Je le dis parce qu'au passage, alors je veux pas le développer parce que je suis en train de réfléchir à ça et que ça sera l'objet d'une intervention que je ferai sur la question de l'amour en thérapie. Au congrès, j'aborderai cette question-là, donc développer maintenant, mais parce que ça fait référence à la question d'une dame, elle me disait, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a de l'amour en fait en thérapie? Et alors, c'était compliqué pour elle de pouvoir l'exprimer. Alors, si elle l'exprime, c'est qu'elle a déjà fait beaucoup de chemin. Hein, il faut être clair. Et là, oui. Alors, on a commencé à échanger là-dessus et un peu plus qu'échanger, c'est-à-dire que plus qu'échanger, ça veut dire comment est-ce que à partir de cette réflexion-là, on a pu la mettre au travail, cette réflexion, de telle sorte que ça devienne une expérience et non pas juste de parler sur notre relation et est-ce qu'il y a une forme d'amour et qui a dérivé sur de l'attachement. l'un à l'autre, on pense à l'un, on pense à l'autre, on a des affects.
Que l'on, ça doit être expérientiel.
Voilà, de pouvoir le basculer sous une forme expérientielle. Et très concrètement, je l'ai parlé d'une chose que tu connais, que vous connaissez, qu'on a l'habitude de pratiquer en thérapie, vraiment, enfin, particulièrement en thérapie du monde relationnel. C'est une manière de faire quand elle est opportune, de demander à l'autre, à cette patiente, tout simplement à cette question qu'elle me posait, et plutôt que de répondre, je dis, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse cette expérience, c'est-à-dire que votre main vienne se déposer dans la main. Et évidemment, ça venait traduire de manière concrète dans le corps, ça apportait des réponses à ce qui pouvait être dit avec des mots. Alors, pour le coup, cette fois-ci, c'était cohérent, on va dire. Donc, c'était cohérent, c'est-à-dire que la main de cette patiente venait pleinement se poser dans la mienne et que ça prenait comme fusion, en fait, hein, entre les deux mains. Là où, bien sûr, cette expérience-là peut des fois se révéler très différente. Alors, c'est pas un problème, c'est juste que ça nous apporte des informations différentes avec cette difficulté d'être au-delà des mots. Et évidemment, ça vient questionner donc la question de l'attachement, là où on peut retrouver parfois, notamment, alors je sais que tu en as l'expérience aussi, mais je pense à ces patients. J'ai une dame en tête, notamment, que j'ai suivi de longue date, où elle était en difficulté. Elle me disait le rejet, la méfiance, la honte, évidemment, qui est centrale chez elle, s'invitait de par son histoire et qui passait son temps à lui dire dès que je disais quelque chose.
Ben oui.
Et en fait, elle se demandait si ce que je disais était vraiment ce que je voulais dire ou si j'avais pas une idée derrière la tête. Bien. Donc elle pouvait pas être pleinement ici et maintenant dans la relation parce que elle était dans un état de méfiance, de vigilance hein, en permanence.
Je dis souvent au mieux quand on est juste sur des mots, on est gentil de le dire pour le patient qui est prisonnier de la méfiance ou de la peur du rejet, de la honte, etc. Au mieux, on est gentil de le dire. Au moins, pire, on est payé pour le dire. Et dans le dernier cas de figure, on est un menteur et c'est difficile pour l'autre de nous faire confiance. Ça me fait penser à une patiente qui, dans l'externalisation de ce qui lui tombe dessus, elle finit par prendre la métaphore peut-être cette série parle à certains d'entre vous, une vieille série, c'était V. Dans les années 80,
oui.
Et elle me dit, moi j'ai grandi sur le vaisseau mère et avec les lézards, mais je ne savais pas que c'était des lézards. Ils avaient l'air humains et il fallait les surprendre en train de manger une souris ou gratter un petit bout de peau pour voir qu'en dessous c'était un lézard. Elle dit, et là je suis là-dedans, en fait, je ne sais jamais si je suis face à un lézard. Ou si je suis face à un humain.
Absolument.
C'est cette métaphore-là qu'elle utilisait. Et donc, ce n'est pas la peine que je lui dise encore et encore en essayant de la convaincre de mes bonnes intentions. Moi, je suis un humain, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Il faut qu'elle puisse le vivre. Il faut qu'elle puisse l'éprouver. Et je pense qu'effectivement, cette capacité qu'on va avoir de... Le patient, ses capacités d'attachement, quelque part, on sait très bien qu'elles sont défaillantes, puisque sinon, il ne serait probablement pas là en thérapie avec nous. Mais il y a aussi notre capacité d'attachement qui est quand même à toujours questionner avec humilité, parce que avant même de pouvoir se mettre en lien, elle et moi, avec le vaisseau mère, et l'événement des lézards, c'est ce qui revenait régulièrement de dire, le vaisseau mère, là, on en est où? Comment, hein? Avant même de pouvoir changer les liens qu'on entretient avec ce vaisseau mère, et donc pour ça, de se mettre en lien, elle et moi, avec cet événement vaisseau mère, il faut qu'on soit attachés. Et ça, elle ne peut que le savoir parler, parler. Le dire ne sert à rien. Elle me l'a exprimé avec, avec métaphore, mais assez parlante. Tu peux me dire que les lézards étaient déguisés en humains et ils nous disaient être gentils.
C'est pour ça que je vais dire, si tu permets, je vais dire nous, je ne crois pas me tromper, ça nous paraît important à ce que le thérapeute, un vrai travail en fait, c'est un vrai, vrai travail, que le thérapeute soit attentif aussi à sa capacité, à son style d'attachement, on pourrait dire ça comme ça. On peut imaginer ce que ça peut donner. Un thérapeute évitant avec un patient évitant. On peut imaginer ce que ça peut donner un thérapeute évitant avec un patient qui serait plutôt anxieux, qui a besoin d'attention dans un excès de rassurance, et avec un thérapeute qui serait plutôt détaché, justement, hein, enfin détaché au sens évitant, pardon. Eh bien, n'oublions pas que le mot, on utilise volontiers le mot, hein, je dirais le mot, nous servons de modèle. Modèle au sens de comme pouvait l'utiliser, enfin au modèle, enfin quand je dis comme pouvait l'utiliser, je pense à la fois Girard, mais je pense pas que lui, c'est-à-dire, au modèle d'apprentissage tel que pourrait en avoir besoin un enfant dans son développement, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, dans une relation thérapeutique. Ça fait référence, je veux dire, métaphoriquement, on est dans une relation, la recherche de relations sécures va au-delà de la question des personnes, et c'est ce qui s'active sur le plan, ce que ça va activer sur le plan relationnel. On peut imaginer ce que peut donner une relation où les positions ne bougeraient pas, et que nous aurions en revanche un thérapeute qui lui serait plutôt un thérapeute de type un peu comme on dit préoccupé, anxieux, hein, anxieux face à un patient qui l'est lui-même ou qui est lui évitant. On peut imaginer à quel point c'est pour être, c'est quoi le titre, je t'aime moi non plus, quoi, c'est le titre de la chanson de Gainsbourg, hein. Où le
Avec
thérapeute
la création
recherche l'approbation,
d'un tennis,
l'acquiescement.
on aurait un tennis relationnel alors qui se met en place comme ça, parce que malgré les évidences cliniques, c'est comme ça le paradoxe, je trouve, dans les discussions qu'on peut avoir cliniques avec les soignants, c'est l'évidence clinique faite même de diagnostic, hein, le patient est border ou parano. On colle des étiquettes comme ça sur le front des gens, mais on n'en fait rien au sens clinique et utile du terme, c'est-à-dire donc il est méfiant. OK. Et comme si ça relevait de la responsabilité du patient d'être pleinement disponible à cette relation qui est de facto sécure parce qu'on est dans un espace thérapeutique. Vous pouvez me faire confiance, leur dit-on. Ne vous inquiétez surtout pas, enfin, à quelqu'un qui a vécu l'abandon, l'abus, la trahison, la déception. Et donc, on part souvent du principe que c'est déjà là, alors que par évidence clinique, si on se retrouve dans cet espace très singulier, c'est quand même pas rien d'aller se confier à un inconnu, d'être dans une relation aussi intime que celle d'une relation thérapeutique, comme si c'était évident, alors que c'est justement ça qui ne l'est pas. C'est-à-dire à partir du moment où on y arrive ensemble, j'ai envie de dire que le reste, bon, pardon, je sais pas si c'est les bons mots, mais c'est du détail, ça va aller très vite de traverser, de faire face au problème pour lequel on était officiellement arrivé dans la consultation. Une fois qu'on en est à cet attachement, là, les...
Pardon, excuse-moi, je te coupe.
Ah,
Pardon, je réagis en même temps. Mais ça me fait dire que ne doit-on pas justement, n'est-ce pas inévitable de passer dans une relation thérapeutique pour arriver à quelque chose de sécure? Et si l'idée c'est d'arriver à ce qu'on appelle une autonomie relationnelle chez le patient et chez le thérapeute, hein, n'excluons jamais le thérapeute, hein, c'est aussi pour lui, hein, dans cette direction qu'on travaille. Est-ce que ça ne doit pas passer de toute façon? Est-ce qu'on va accepter que ça passe de toute façon par une étape de forme de dépendance à l'autre? Ce qui est problématique, c'est pas tant, par exemple, dans une relation, à mon avis, qu'il puisse y avoir un moment cette dépendance à l'autre, si elle permet de devenir une base sur laquelle on peut s'appuyer pour ensuite développer et que ça devienne une expérience sur laquelle qui va devenir un souvenir, à partir duquel on va pouvoir déployer d'autres expériences, hein, parce que c'est vrai qu'on a plus mis l'accent là ce soir sur la relation patient-thérapeute, et on devrait y rajouter aussi une troisième dimension qui est inclure la dimension communautaire. Et on sait à quel point, je pense aux thérapeutes, je vois Eric qui arrive, ça veut dire qu'on va devoir bientôt s'arrêter. C'est tellement confortable quand je pense aux thérapeutes en particulier là, quand le thérapeute sur sa dimension communautaire peut s'appuyer justement sur une communauté de thérapeutes. Et là où tout d'un coup le sentiment de pouvoir se sentir parfois seul et isolé. Parce que tout ce qui s'active chez le patient, chez le thérapeute, de toute façon. Et je pense que c'est aussi une dimension qui est importante à prendre en compte, hein, le soi, l'autre, dans ses spécificités, mais évidemment tout ça en lien avec le groupe, la communauté d'appartenance.
Et travailler, enfin de pouvoir, c'est pour ça qu'évidemment je suis ravie du sujet du congrès, c'est cette question de l'attachement qui est quand même, enfin, qui nous est pas enseignée comme ça, même peut-être tout à fait à l'inverse, hein, l'attachement en thérapie c'est encore vécu comme un vilain mot ou un hors cadre ou enfin parce qu'on ne sait pas ce qu'on y met. Et est-ce qu'on aime nos patients? Alors, à cette question, je réponds toujours oui, sans aucun doute possible. J'aime mes patients, mais j'aime mes enfants, j'aime mon compagnon, j'aime mon chat, et j'aime mon cochon d'Inde de manière très différente l'une de l'autre. Et j'aime bien répéter ça en formation tout simplement comme ça, parce que c'était ma fille qui disait un jour… Alors, elle s'est arrêtée en disant « qu'est-ce que je viens de dire ?» Elle avait le chat dans les bras et lui faisait des grosses papouilles. Elle dit « oh maman, je l'aime trop, je crois que je l'aime autant que mon frère. » Et parce que ça sort de la bouche d'un enfant, c'est mignon comme tout. Mais je trouvais ça tellement juste. Et puis, tout, hein, là, elle s'arrête, « est-ce que j'ai le droit de dire ça ?» Mais tu l'aimes autant différemment, non ?
Oui. Mais tu sais, juste, ça me fait penser, tu parlais de l'attachement, et puis après, je vais pas m'arrêter. Je me souviens, ça m'a toujours fait penser dans les livres où on nous disait, et à la fin, tu sais, c'était un peu comme les contes de fées, c'est-à-dire, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, je sais pas quoi, mais on nous explique jamais comment ils oui. vivent heureux, comment ils s'y prennent pour être heureux. Bah, c'est là, pour moi, la question de l'attachement, depuis 23 ans maintenant que je fais de la thérapie, ça a toujours été la même question. Donc, très longtemps, c'était. Alors, on nous dit que c'est important
de
soigner cette qualité-là, mais jamais, jamais on nous apprenait la manière dont on pouvait s'y prendre. Et en fait, ce qui est incroyable et ce que j'ai découvert à travers la thérapie, c'est que, j'allais dire, c'est un peu simpliste hein, ce que je vais dire, mais alors qu'il suffisait de se pencher et de s'intéresser je le dis d'autant plus que Eric est présent aussi ce soir, il suffisait de se pencher d'une certaine manière et de regarder comment s'y prend l'enfant.
Mmh. Ben oui.
À l'adulte et comment l'adulte s'y prend avec l'enfant dans une relation, quand la relation dans une relation saine. Et que ça, finalement, c'est là, en fait.
Mais les patients adultes sont vraiment défavorisés. Dans cette aventure thérapeutique, parce que quand il s'agit d'un enfant qui arrive en thérapie, je vais donner des exemples vraiment très, très concrets. On peut se faire un bisou, c'est un enfant. S'il veut nous laisser un dessin, bah, évidemment qu'on prend son dessin, on va même l'accrocher au mur dans le bureau, hein, et on aura plein de dessins d'enfants. Si c'est un adulte et qu'il n'a pas encore appris cet attachement parce qu'il a 30, 40, 50, 60 ans, il est censé en être déjà là et bah, tant pis pour lui si pas. Parce que je pense à ce dessin, ce dessin qu'on accroche, celui des enfants qu'on accroche volontiers dans mon service, enfin, dans le service dans lequel je travaille. J'ai travaillé pendant 20 ans dans un service de santé mentale à Bruxelles. Eh bien, quand c'était un enfant, le dessin était accroché dans le bureau des pédos sans aucun doute ni discussion clinique. Et je me souviens d'une patiente qui m'a amené une peinture qu'elle avait réalisée pour moi. Et bah, ça en a fait plusieurs réunions d'équipe, hein, pour savoir si c'était une bonne idée de l'accrocher, de ne pas l'accrocher, de la mettre ou pas dans mon bureau, dans l'institution, enfin... On en a fait toute une réunion d'équipe alors que c'était juste une question d'attachement. Mais parce que c'est un adulte, elle était censée être déjà à cette étape-là.
Oui.
Et donc, s'ils n'ont pas encore appris, est-ce que ce n'est pas ça la thérapie? C'est apprendre ou réapprendre l'attachement sécure, quel que soit l'âge qu'on a.
Peut-être que, comme on arrive...
Allez-y.
À cette heure, comme je vous entends, je me suis dit peut-être que nous pourrions dire, peut-être que plus que toi, ce que j'aime, c'est notre relation et la manière dont elle évolue. Et comment dans cette relation, je peux te voir te déployer et grandir. Qu'en pensez-vous?
Ah bah, je partage. Je partage pleinement parce que c'est au-delà de ce que j'entends de la manière dont tu dis Eric, c'est au-delà de la personne en tant que personne en fait, de l'identité on dirait. Hein, c'est notre relation et je fais le lien rapidement avec quand même des écrits qui ont été marquants. Là, je pense à Martin Buber sur cette relation. Le jeu le tue et la relation peut prendre forme parce que je te reconnais en tant que personne existant. On pourrait dire parce que je te reconnais aussi et je reconnais ton monde relationnel. Donc oui, dis rapidement. Je partage.
Moi, ça fait écho avec les propos de Jean-Michel Longuyon, qui était un philosophe belge, qui a fait pour moi une magistrale intervention sur les familles traumatisantes. On va pas partir sur ce versant-là, mais pour le début de son propos, c'est une famille, c'est un groupe que l'on quitte à un moment donné. Qu'on est amené à quitter au sens sortir, déployer, grandir. Et à un moment donné, on se retrouve là face à ses parents en position, en échange égalitaire, à avoir des besoins égalitaires aussi. Et c'est ce moment où on peut quitter, partir, déployer. Et sauf que quand on peut, en tant que parent, faire le constat que nos enfants... s'en vont librement, c'est une vraie réussite. Et donc, quand nos patients le font également, c'est une vraie réussite. Ça passe par cet attachement et cette relation qui évolue où petit à petit, ils n'ont plus besoin de nous et on en est ravis.
Si je peux faire un petit commentaire, il y a 20 ans de ça, quand un patient me disait « Ah, ça m'est arrivé, ça m'arrive parfois de penser à vous, quelque chose que vous m'avez dit », je me disais « Zut, j'ai loupé le travail », c'est-à-dire qu'il garde il y a une forme de dépendance en fait, il ne peut pas penser par lui-même. Évidemment, chemin faisant, aujourd'hui, ce qui l'emmène avec lui, je sais bien que c'est pas moi. J'ai bien compris.
C'est les contributions de la relation.
Même si j'espère que personne m'apprécie quand même. Mais je sais que c'est notre relation qui l'emmène avec lui. Et cette relation, elle s'exprime à travers un regard, des gestes, des mots. qui l'entend et qui résonne comme une expérience encore pour lui aujourd'hui. C'est ça, nos expériences, en fait.
Et dans cette relation, les contributions, c'est-à-dire tout ce qu'il a pu découvrir ou redécouvrir, apprendre de différents, d'inédits, et oui, c'est plus, tu disais, tiens, c'est de la dépendance, ben, il y a des années de ça, aujourd'hui, c'est de la permanence, et c'est comme grâce à ça qu'on peut explorer, découvrir le monde de manière très autonome, avec ce souvenir fort et solide de la relation sécure. On peut être seul sur une île déserte, avec ce souvenir, c'est une métaphore que j'utilise beaucoup aussi, c'est la pierre de résurrection d'Harry Potter. Ce moment où il doit affronter Voldemort dans la forêt, enfin il doit, non, il ne doit pas, mais il choisit de le faire. Et quand il y va avec cette pierre, et finalement, les grands fans d'Harry Potter débattent de ça depuis une bonne paire d'années. Enfin, finalement, qu'est-ce qui le fait gagner au bout du compte, et on est nombreux à penser que c'est l'amour qui le rend plus fort que Voldemort. L'amour de cette pierre sécure lorsqu'il serre cette pierre et qu'il peut halluciner dans la forêt son père, sa mère, son parrain, les uns et les autres. Et puis, grâce à ça, de se souvenir de cet attachement sécure, et ça le sauve. Il a survécu grâce à l'amour, ouais.
Oui, ça m'évoque ce que tu dis, Vera, et donc dans votre échange, puisque tu as amené à côté de dépendance permanence, et que tu as dit quand les parents voient leurs enfants partir, ils sont ravis. Je me disais ravis, ravissement, émerveillement, et la permanence amène à l'émerveillement, alors que la dépendance ne risque pas d'amener à l'émerveillement. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, quand je vous entendais, je crois que ça m'amène à quelque chose que parfois les gens n'ont pas forcément compris d'Erickson, c'est « ma voix t'accompagnera et cette voix deviendra d'autres voix ». La voix emmène la relation, pas la personne. C'est que c'est la voix qui témoigne de ce ravissement et de cet émerveillement, de que la permanence permette le détachement et la séparation, là, au lieu de la dépendance.
Oui, c'est la relation qu'on emporte. Une patiente me disait récemment, dans un moment de clôture, parce qu'on est au bout du chemin qu'on parcourt ensemble, qu'elle était étonnée encore aujourd'hui d'avoir, comme Stéphane le disait, tiens, j'entends Vera dire ça ou questionner ça, mais je dirais mieux que ça, dans les métaphores que j'utilisais, je lui ai parlé de Catherine, une amie à moi qui est décédée il y a des années. Je parle de Catherine dans cette métaphore de permanence et de tout ce qui est encore très vivant entre elle et moi. Et j'étais assez émerveillée quand elle m'a dit, souvent, je me dis, Catherine aurait dit. Et donc, cette patiente parle des contributions d'un tiers sécure qui était mon tiers sécure et qu'elle n'a pas rencontré du tout, mais qu'elle a pu éprouver à travers notre relation. Et ça, elle emporte les contributions. Pas... Ouais. Donc, on peut se séparer tranquillement parce qu'on sait bien que rien n'est fini.
On voit à quel point, dans l'exemple que tu donnes, la Vera, clairement, enfin, l'effet mimétique d'une expérience à travers une personne que je n'ai peut-être pas connue ou jamais connue, mais comme tu le dis, c'est-à-dire à travers votre expérience et la relation, la forme que prend votre relation, elle est en capacité de pouvoir l'éprouver et de prouver un lien à une personne qu'elle ne connaît pas, mais qui passe par justement votre relation. C'est peut-être un peu ça qui se passe, ou peut-être carrément ça qui se passe justement lorsqu'on parle d'expérience. C'est quand même assez extraordinaire d'entendre parfois ou de voir, d'entendre se déployer avec des personnes qui sont quand même bien, excusez-moi du terme, mais enfin des histoires bien fracassées, hein, et que le travail qu'on peut faire ensemble les amène à faire l'expérience. On dit d'expérience fondatrice parfois. c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, c'est-à-dire de permettre comme ça ensemble de pouvoir à l'autre de découvrir mais sous une autre forme parfois, ou peut-être tout simplement complètement ce que c'est que le lien avec de l'affect qui passe entre deux personnes et qui n'est pas une expérience d'emprise, par exemple. J'ai suivi une dame, ça me donne un exemple, j'ai suivi une dame qui ne pouvait, en fait, finalement, la relation humaine pour elle, bien sûr, existait, mais une relation d'attachement saine, sécure, n'existait pas. Elle me dit, 27 ans, cette jeune fille, hein, une histoire chaotique, et finalement, le seul personnage, c'était auquel elle pouvait véritablement s'attacher, en qui elle avait confiance, parce qu'il ne l'avait jamais trahi, c'était sa peluche qu'elle a depuis toujours, en fait. Et c'était intéressant de voir que à travers cette peluche, comment on va s'y prendre, comment on va pouvoir travailler à travers cette peluche. Et voyez, il y a toujours quelque chose quelque part, une relation qui peut émerger. Et évidemment, cette peluche, je ne l'ai pas nulle part. C'était un oncle qui lui avait offert, un oncle qui était décédé. Et en fait, cette peluche, elle y était attachée. Elle lui donnait des attributions. Elle la faisait vivre, puisque dans son histoire à elle, elle ne pouvait que, de toute façon, à travers cette peluche, c'était son ami, c'était sa peluche et son ami imaginaire en même temps. Et comment, à travers cette histoire de peluche qu'elle a emmenée en séance, ça a pu la reconnecter à une expérience, ensuite une expérience humaine qu'elle avait pu avoir avec son oncle.
On est sur une notion ancienne mais toujours bien actuelle de l'objet transitionnel. Cet objet qui vient me rappeler l'éprouvé de la relation et qui va me permettre de l'incorporer et d'ancrer les contributions de cette relation. Et tout à l'heure, quand tu disais, à ce moment, tu as parlé de passé et donc j'ai pas pu m'empêcher de penser à notre collègue Julien Bedbès, qui dit que finalement le thérapeute est un passeur de monde. Et comment on peut faire ce voyage ensemble, passer d'un monde insécure, d'un attachement insécure qui est là peut-être depuis toujours comme depuis lors, ça dépend à quel moment le lien a fait défaut, parce que finalement c'est chaque fois ça. Dans notre clinique, c'est le lien qui fait défaut, le lien insécure qui fait défaut et qui dissocie, qui sidère.
J'entends peut-être, si tu permets, peut-être je formulerai les choses un petit peu différemment aujourd'hui, dans le sens où je parlerai pas de passer peut-être d'un monde à un autre, mais c'est comment le travail thérapeutique peut amener à faire exister les deux mondes, en fait. C'est sans négliger mon histoire passée, en fait, bien évidemment, hein. C'est pas lui tourner le dos, hein.
Oui, bien sûr.
Plutôt apprendre changer de niveau, en fait, hein, et que ces deux mondes puissent exister, parce que dans ce monde aussi traumatique qu'il puisse être, c'est dans ce monde-là aussi où parfois j'ai été puisé, où mes ressources étaient présentes.
Si je te rejoins en disant c'est une fois dans l'attachement, dans un attachement sécure retrouvé ou trouvé, que je peux me remettre en lien avec ce monde traumatique. Parce que je ne suis plus terrifiée ou prisonnier par ce monde. J'ai réappris l'attachement sécure et depuis ce niveau-là, je peux le regarder différemment et emporter alors même les contributions de ce monde-là.
Alors, Vera et Stéphane, nous arrivons au bout de ce...
On peut tenir jusque demain, hein, pas de problème.
Oui, je vous fais confiance. Alors, si vous aviez un mot de conclusion. Moi, je pose une question. Au bout de ce webinaire, si votre échange vous a appris quelque chose ou vous a enrichi de quelque chose, de quoi vous a-t-il enrichi dans votre échange?
Je sais, est-ce que tu veux intervenir, Béra?
Vas-y, Stéphane. Bon. Ça me laisse le temps de remettre mes idées en place.
Alors, il y a plusieurs choses. Au-delà du plaisir partagé, et je le dis quand même parce que ce n'est pas négligeable, hein, au-delà du plaisir partagé, je dirais que ça remet à sa place encore une fois la question de la posture, hein, et je redis quelques mots, cette posture qui est portée évidemment à travers, c'est-à-dire tête, cœur et ventre, en fait, hein, à travers nos actes, nos intentions, en direction de l'autre ou des autres. Le mot qui me vient, si en fait ça m'enrichit et je dirais, et encore, ça vient encore plus me confirmer, et ça serait encore certainement un autre sujet à développer, c'est la question de la présence thérapeutique. Qui mériterait, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir développer plus cette idée-là, mais je dirais que je l'ai senti, j'enlève thérapeutique et je dirais que je l'ai senti très fortement ce soir, cette présence. Donc, je te remercie, Béra.
Ben oui, je te rejoins évidemment sur le plaisir et c'est pas rien, je trouve ça important justement pour cet ancrage positif aussi en thérapie. Moi, je prends énormément de plaisir avec mes patients aussi, je rigole bien, on fait aussi des choses agréables, c'est pas toujours tendu, douloureux, sérieux. Et je trouve qu'on peut faire de belles choses comme ça aussi. Parce que ce qui va compter à la fin, c'est ce que je retiens de ce séminaire, ce qui va compter à la fin, c'est le souvenir de ce qu'on a éprouvé ensemble. Le reste s'efface, on ne se souvient plus trop quels sont les mots qui ont été utilisés, et ça n'a pas d'importance d'ailleurs, c'est l'éprouvé, c'est ce qu'on a éprouvé ensemble que le patient, qui nous reste et que le patient emporte. Et comme je le dis, moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est que la relation reste vivante au-delà des rencontres. Le but, enfin, si on peut en avoir au moins un, c'est celui-là, c'est de construire une relation vivante, parce que ça reste, enfin, vivant au-delà. On n'a pas besoin de se voir, de se revoir. C'est vivant, on le sait, puisqu'on le sent, et ça passe par le corps. Donc je retiendrai ça, et effectivement, oui. Plaisir d'être avec vous ce soir.
Je le sens.
Bien. Véra et Stéphane, merci pour ce webinaire. Et je vous rappelle notre congrès du 31 mai, 1er, 2 et 3 juin 2023 à La Baule, avec plein d'intervenants. S'accorder, co-créer, transmettre, le lien humain au cœur de la thérapie. Vous pouvez trouver les informations sur notre site www.mimétis.com. Et je vous dis à notre prochain webinaire et à bientôt. Et merci Véra et merci Stéphane pour ce partage.
Merci beaucoup.
Et à vous aussi.
Merci à tous.
Merci à tous. Merci à tous.